Voici une question dont la réponse en épatera plusieurs. Est-ce que Dieu a besoin de notre aide pour tenir ses promesses? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de bonnes questions à poser à la parole de Dieu à l'émission d'aujourd'hui. Vous avez probablement déjà posé quelques-unes de ces questions. Et enfin, le Seigneur va nous répondre, afin qu'il n'y ait aucun doute dans nos cœurs. Alors voici les questions. Qu'est-ce qui nous affermit dans notre marche chrétienne? Qu'est-ce qui nous rend capables d'observer les commandements de Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de notre aide pour tenir ses promesses? Est-ce qu'une allégorie suffit pour prouver une doctrine? Qu'est-ce qu'une allégorie? De nos jours, qui sont les enfants de la promesse que Dieu a faite à Abraham? Pourquoi est-ce que l'homme naturel déteste entendre l'évangile de la grâce de Dieu? Est-ce que le légalisme et la grâce de Dieu peuvent coexister? Restez avec nous, les Saintes Écritures vont nous révéler de grandes choses une fois de plus aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est avec joie qu'on vient dans ta présence pour te demander de continuer à nous enseigner aujourd'hui. Ta parole est tellement merveilleuse, on veut mieux la connaître pour mieux te connaître, Seigneur. Parle-nous, mon Dieu, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que les idoles ne pouvaient se révéler à nous comme le vrai Dieu le fait. Les idoles muettes ne sont pas des dieux. Nous avons aussi mentionné que se remettre sous le joug de la loi, c'est une forme d'idolâtrie. Un système légaliste, avec ses lois et ses règlements, ne nous rapproche pas de Dieu, mais révèle plutôt que nous sommes incapables d'observer la loi de Dieu. Nous avons vu aussi que de nombreuses personnes n'aiment qu'entendre des choses plaisantes, et elles s'opposent à la prédication de certains aspects de la parole de Dieu. L'avertissement que Paul donne à ce sujet est encore pertinent aujourd'hui, ainsi que l'avertissement au sujet de se remettre sous le joug de la loi. Dieu est saint et le monde est pécheur. Chers amis, débutons notre lecture, Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous voyons que Paul avait vraiment à cœur la santé spirituelle des chrétiens de la Galatie. Mes enfants, Paul éprouve une véritable tendresse pour les Galates. C'est le Seigneur qui nous a fermis, et non des lois, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'observation de lois, de règlements, de rituels religieux et de toutes sortes d'ordonnances ne formera jamais le Seigneur Jésus en moi ou en vous. C'est plutôt le développement et le maintien d'une relation intime avec lui qui formera Christ en moi et qui m'affermira dans ma marche chrétienne. Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Paul dut s'exprimer avec sévérité dans sa lettre, mais ce n'est pas de bon cœur qu'il le fit. Il aurait préféré être parmi les chrétiens de Galate et parler à leur cœur. Paul éprouvait une certaine inquiétude. Il ne voulait pas que ses enfants spirituels se replacent sous le joug de la loi. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? La grâce précède l'obéissance, et toute obéissance est un fruit de l'esprit. Il est possible de mal comprendre l'utilité de la loi. Celle-ci nous montre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Cependant, elle n'est ni un moyen de salut, ni un moyen de se mériter des grâces de Dieu pour notre marche chrétienne. La loi ne peut nous sauver, car notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 5. De plus, c'est Dieu qui nous rend capables d'observer ses commandements. La grâce précède l'obéissance, et toute obéissance est un fruit de l'Esprit qui est en nous. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Citation d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Retournons à notre épître, celle de Galates, chapitre 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Une allégorie illustre une doctrine sans la prouver. Maintenant, Paul utilise des événements de la vie d'Abraham pour illustrer ce qu'il enseigne. Tirer une allégorie de ces événements ne prouve pas la doctrine de Paul, mais aide à la comprendre. Une allégorie est une illustration. Paul s'en sert pour clarifier sa pensée. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Ancien Testament, permettez que je résume les événements dont Paul parle. Dieu avait promis un fils à Abraham et à Sarah, mais ils étaient tous deux avancés en âge, et ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Au chapitre 15 du livre de la Genèse, nous voyons que Sarah a prêté sa servante Agar à son mari afin que Sarah puisse avoir des enfants par elle. C'était une coutume hittite. C'est ainsi qu'Abraham eut Ismaël de Agar, l'esclave de Sarah. Au chapitre 21, nous voyons que Dieu n'a pas accepté Ismaël. Dieu avait promis un fils naturel à Abraham et à Sarah. Et ils en eurent un, alors qu'Abraham avait 100 ans et Sarah en avait 90. Isaac était l'enfant de la femme libre, l'enfant que Dieu avait promis à Abraham. Ismaël était le fruit d'un effort humain pour obtenir ce que Dieu avait promis. Lorsque Sarah demanda à Abraham de chasser Ismaël, Dieu dit à Abraham d'écouter la voix de Sarah, car c'est d'Isaac que sortirait la postérité promise. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Dieu tient ses promesses sans notre aide. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Abraham vivait dans la culture hittite, et le code d'Amourabi était celui qui était en vigueur. Ce code disait qu'un enfant né d'une esclave était un esclave. Donc, légalement, Ismaël n'était pas considéré un homme libre. Ismaël était le fruit d'un effort humain pour aider Dieu à accomplir sa promesse. Chers amis, ne tombons-nous pas souvent dans le même piège, celui d'essayer d'aider Dieu à tenir ses promesses? Par exemple, Dieu a promis de pouvoir aux besoins de ceux qui cherchaient l'avancement de son royaume. Il nous dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Un chrétien fait le même péché qu'Abraham et Sarah lorsqu'il travaille au noir ou qu'il essaie de gagner de l'argent malhonnêtement. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Voilà ce que le texte précise. Vu l'âge avancé d'Abraham et de Sarah, la naissance d'Isaac est miraculeuse. Il ne fait aucun doute que Isaac est le fils de la promesse. Il est un enfant naturel et légitime, celui que Dieu avait promis. Verset 24. Ces faits sont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une, du mont Sinaï, enfantant par la servitude, c'est Agar. Une allégorie n'est pas suffisante pour prouver une doctrine. L'allégorie comme méthode d'interprétation fut abusée par les pères de l'Église qui désiraient concilier le judaïsme et la philosophie grecque. Cependant, une allégorie est une manière légitime d'enseigner, si elle est bien utilisée. Paul, qui est inspiré de Dieu, le fait ici. Notez qu'il s'en sert comme illustration de son enseignement pas comme preuve de sa véracité. Il a avancé d'autres preuves légitimes que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi. Nous abusons de l'allégorie lorsque nous nous en servons afin de prouver une doctrine. Cependant, il est légitime d'en utiliser une pour illustrer une doctrine que nous avons déjà démontrée. C'est ce que fait Paul. Son allégorie montre que la loi et la grâce sont incompatibles lorsqu'il est question de salut. Méfiez-vous d'une personne qui vous enseignera une doctrine et n'offrant qu'une allégorie comme preuve de sa véracité. Seule une personne qui connaît bien la Bible et les doctrines chrétiennes peut utiliser une allégorie avec sagesse. Verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Dans l'allégorie de Paul, Agar représente le mont Sinaï, qui correspond à la Jérusalem du temps de Paul. Cette Jérusalem était sous le joug de la loi, elle était encore dans l'esclavage. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est la nouvelle Jérusalem décrite dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, celle qui descend du ciel. L'ancienne Jérusalem est la ville de ceux qui sont sous la loi, alors que la nouvelle Jérusalem est la ville de ceux qui sont sous la grâce. Les croyants ici sur terre et ceux dans l'au-delà n'ont rien à faire avec le légalisme, c'est-à-dire avec la loi. Verset 27. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » Sarah, qui fut stérile jusqu'à la naissance d'Isaac, eut une descendance beaucoup plus nombreuse que celle d'Agar. C'est une allégorie. Paul dit que Dieu sauve plus d'êtres humains par la grâce qu'il n'en a jamais sauvé sous la loi mosaïque et le système des sacrifices. Verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Les croyants d'aujourd'hui sont les enfants de la promesse. Notre naissance est une nouvelle naissance qui se produit lorsque nous mettons notre confiance dans les promesses de Dieu. Jean 3:16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur Jésus a dit que si nous lui faisons confiance pour notre salut, nous naîtrons de nouveau. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Paul aborde ce sujet dans Romains chapitre 9, les versets 6 à 10. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il y dit, « En Isaac, tu auras une postérité, appelée de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. » mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Verset 29, toujours de l'Épître aux Galates, chapitre 4. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Lorsqu'Abraham organisa une fête au moment où Isaac fut sevré, Sarah remarqua qu'Ismaël riait. Ce n'était pas le rire d'un adolescent qui s'amuse, mais probablement un rire méprisant. C'est pourquoi Sarah demanda qu'Ismaël soit chassé. Mes amis, les légalistes haïssent l'évangile de la grâce de Dieu. J. Vernon McGee, le pasteur, dont nous traduisons et adaptons les textes, racontait cette anecdote. Je cite. Lorsque je fus mis à part pour le ministère, j'ai prêché sur la prophétie en mentionnant que cela m'attirait probablement des ennuis. Après le service du dimanche, un ancien vint me trouver et dit, Vernon, tu te trompes. Prêcher au sujet des prophéties ne t'attirera jamais d'ennuis. En fait, cela attire habituellement une foule plus nombreuse. les gens aiment entendre parler de la prophétie. Mais si tu prêches sur la grâce de Dieu, alors tu t'attireras des ennuis. C'est la raison pourquoi la prédication de l'Évangile est diluée de nos jours. J'entends très peu de sermons au sujet de l'Évangile, c'est-à-dire de la grâce de Dieu. Et je sais pourquoi maintenant. Si tu le fais, les critiques vont pleuvoir. Des gens pensent que je dois aussi faire des œuvres pour être sauvé, ou que je dois rechercher quelque chose d'une autre source, du Saint-Esprit par exemple, ou que je dois me soumettre à un rituel pour recevoir quelque chose que je n'ai pas obtenu lorsque j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Fin de la citation. Chers amis, l'homme naturel n'aime pas l'enseignement de l'Évangile de la grâce de Dieu. Oui, ceux qui parlent comme ces gens qui enseignent que Jésus-Christ ne suffit pas font du Seigneur Jésus une malédiction. Si vous devez ajouter quoi que ce soit à ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous, alors il est mort en vain. Le Seigneur Jésus fut fait malédiction pour nous, nous dit les Saintes Écritures. Mais si vous n'acceptez pas cela, vous dites que vous n'êtes pas coupable, mais que le Seigneur Jésus l'est. Les mots prononcés par Paul sont encore pertinents aujourd'hui. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. L'homme naturel n'aime pas l'enseignement de l'Évangile de la grâce de Dieu. Mes amis, nous haïssons cet Évangile parce que selon celui-ci, nous ne contribuons rien à notre salut. Nous n'avons rien à faire. Cet Évangile glorifie le Seigneur Jésus et nous amène à tourner nos regards vers lui. Si nous lisons attentivement le livre des Actes, nous noterons que c'est habituellement les Juifs qui provoquaient les persécutions contre l'apôtre Paul et son équipe missionnaire. Les légalistes se sont toujours opposés à la grâce de Dieu. De plus, beaucoup de persécutions furent faites au nom de la doctrine et de la religion. Mais que dit le psaume 2, versets 1 et 2? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? C'est Dieu qui est en fait rejeté. L'homme naturel ne veut rien savoir de Dieu et de sa grâce. Il ne veut pas d'un Dieu infini dans ses perfections, mais d'un petit Dieu qu'il peut acheter avec des œuvres ou de l'argent, un petit Dieu qu'il peut amadouer en observant tel ou tel rituel religieux. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Dieu est juste, saint et infini. C'est lui qui est souverain, et c'est lui qui sauve strictement par le moyen de la grâce. Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Le légalisme et la grâce de Dieu ne peuvent coexister, cohabiter. Dieu a ordonné que le fils de l'esclave soit chassé. Genèse, chapitre 21, les versets 10 à 14. Aujourd'hui, Dieu nous dit, « Rejetez toute forme de légalisme et mettez l'accent sur mon fils Jésus-Christ. Le légalisme et la grâce de Dieu ne peuvent coexister. Le légalisme anéantit toujours la grâce de Dieu. Où notre confiance est mise en Jésus-Christ, où nous sommes sauvés par nos propres efforts. Lorsque des efforts sont faits, la confiance ne repose pas entièrement sur Jésus-Christ. À nous de choisir. » Verset 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Abraham n'a pu avoir à la fois le fils de l'esclave Agar et le fils de son épouse Sarah. Il dut faire un choix. Si pénible cela lui fut-il. Paul dit que nous ne pouvons pas être sauvés à la fois par la loi et par la grâce de Dieu. Nous devons faire un choix. Si vous essayez d'être sauvés des deux façons à la fois, vous n'êtes pas sauvés. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, parce que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Romains chapitre 7, versets 1 à 6. La loi et la grâce sont mutuellement exclusives, l'une de l'autre. Pour recevoir la grâce de Dieu, il faut premièrement mourir à la loi. Lorsque le Seigneur Jésus a pris sur lui la condamnation que nous avaient mérité nos péchés, nous fûmes libérés de la loi, ayant été crucifiés et ressuscités avec lui. Se remettre sous le joug de la loi est une forme d'adultère. Nous appartenons déjà à Jésus-Christ, car il nous a rachetés au prix de son sang. Chercher à mériter la grâce qu'il nous a acquise est un affront envers le donateur. Permettez que je vous pose une question. Avez-vous vraiment mis toute votre confiance uniquement en Jésus-Christ? Ou transportez-vous un pneu de rechange dans votre véhicule automobile? Pensez-vous que vous essayez de faire quelque chose, ou d'être quelqu'un, ou d'atteindre quelque chose pour ajouter à ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous à la croix? Si c'est le cas, oubliez tout ça et placez votre confiance uniquement en Jésus-Christ. Recevoir le salut complet, c'est de croire en la promesse de Dieu. Recevoir tout de lui, de reconnaître qu'il est le Sauveur, votre Seigneur. Oui, Jésus doit recevoir toute la gloire. Il est l'auteur d'un si grand salut. À nous d'être reconnaissants, chers amis. Dieu vous propose un salut complet en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a payé pour tous vos péchés, la dette de vos péchés entièrement. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour vous. Vous ne serez pas condamnés pour vos péchés, car il a pris sur lui votre condamnation. Sa justice est mise sur votre compte, car vous n'en avez pas une, et vous ne pouvez pas vous en procurer une. Vous ne pouvez compter que sur sa justice. Vous naissez de nouveau avec lui, et sa grâce vous enseigne à marcher dans les voies de Dieu. Pour obtenir ce merveilleux salut, vous n'avez qu'à mettre votre confiance en Jésus-Christ. Vous vous repentez de vos péchés, vous les confessez et vous vous tournez vers celui qui est devenu votre Sauveur, Jésus-Christ. Tout cela est gratuit. Vous n'avez qu'à dire oui à l'offre de Dieu. Écoutez Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Chers amis, la parole de Dieu nous encourage à quitter la loi, celle qui nous condamne, celle qui nous rend coupables devant Dieu, et de nous tourner vers ce nouveau moyen de salut qu'est par grâce. L'unique, le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, le moyen de la grâce. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 1 à 4.
Merci, Régent. Je crois que l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui nous démontre à quel point on est orgueilleux, même s'il ne l'a pas dit littéralement. On a vu que puisqu'on cherche à obtenir le salut par nos propres moyens, et qu'on voudrait au moins contribuer en quelque sorte à ce salut, on est porté à haïr l'Évangile. C'est vraiment horrible. Heureusement, on a un Dieu patient et miséricordieux, un Dieu qui aime pardonner. Pour ma part, il m'a un jour convaincu que je ne pouvais absolument rien faire pour mériter d'être sauvé et de passer l'éternité au ciel en sa présence. Il a permis que mon orgueil soit assez brisé pour que je crie dans ma détresse, « Seigneur, sauve-moi !» Et il m'a sauvé. Simplement parce que j'ai finalement placé ma confiance en Jésus seul pour recevoir ce beau cadeau entièrement gratuit de la vie éternelle. J'ai enfin réalisé que le sacrifice de Jésus à la croix était suffisant pour payer en entier mon billet pour le ciel. Jésus a subi la condamnation que je méritais. Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu fait homme, s'est laissé arrêter par sa propre créature. Il s'est laissé flageller, donner des coups de poing, injurié, méprisé, cloué sur une croix, pour moi et à cause de moi. Lui qui n'avait jamais péché. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, Paul nous dit que Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mes amis, Jésus a satisfait la justice de son Père, la justice de Dieu en entier. On n'a rien à payer. C'est même un affront qu'on lui fait si on essaie de se sauver par ses propres moyens. Comme si Jésus n'avait pas le pouvoir de nous sauver parfaitement. Il a même dit, alors qu'il agonisait, juste avant de mourir, « Tout est accompli. » Mes amis, Jésus n'est pas menteur. Il est la vérité même. Il a dit à Thomas dans l'Évangile de Jean, au 14e chapitre, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Le jour où j'ai pris Jésus au mot, il m'a placé sur le bon chemin, le chemin de la vie éternelle. Il m'a fait voir la vérité. Et cette vérité, c'est que je suis une pécheresse, mais que par la foi en lui, je suis devenue une pécheresse pardonnée. Pardonnée en entier. Et il m'a donné la vie éternelle, une vie merveilleuse, même ici-bas. Parce que c'est ici que ça commence. Dans le deuxième chapitre de son épître aux Éphésiens, Paul dit quelque chose de très beau à ce sujet, des versets 4 à 9. Permettez-moi de le partager avec vous. Il dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Merci Seigneur pour ce beau cadeau.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui seront aidés.
Tu as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.